Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magalie Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour Conseil, Formation, Communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de trois choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là, et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts? On y va? Je vous emmène avec moi? Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Vanessa Musset. Vanessa Musset a un métier particulier. En fait, elle est formée à la synergologie. Et oui, vous avez bien entendu, je parle de synergologie, mais elle va vous expliquer mieux que moi ce que c'est. Tout d'abord, pour présenter Vanessa, alors Vanessa s'est formée en synergologie dans les années 2019. Elle a passé un mémoire, elle a eu une certification, ce qui lui permet, alors je vous en dis quand même quelques mots, parce que sinon vous allez vous dire mais de quoi elle nous parle, ce qui lui permet d'analyser, on va dire, le non-verbal. On va dire que Vanessa, elle a toujours été intéressée par l'humain, passionnée par la nature humaine, c'est ce qu'elle disait, et elle a cherché à se former en PNL. La PNL, programmation neurolinguistique, dans les années 90. Elle y a été, et puis ça lui a paru intéressant, mais il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment précisément ce qu'elle recherchait, mais elle ne savait pas quoi. Et vous savez, dans la vie, on fait des découvertes, on rencontre des personnes, et c'est ce qui lui est arrivé dans les années 2016. 2016, elle découvre une personne qui lui parle de, justement, la synergologie. Et là, les pièces du puzzle se remettent ensemble et elle se dit « Mais ouais, c'est vraiment ce qu'il me faut. » C'est une discipline qui permet d'analyser, de voir les choses, d'observer. Voilà. Depuis toute petite, elle observait les choses. Elle était dans l'appréhension, dans le faire. Même à l'école, vous savez, à l'école, on est des fois beaucoup sur du descendant. Et elle avait besoin de faire, elle avait besoin d'observer. Et la synergologie lui a permis de, encore une fois, mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et ça lui a parlé. Donc aujourd'hui, les maîtres mots de Vanessa, c'est observation, science, discipline, philosophie. Et elle met tout ça au service de ce qu'elle propose. Et donc, je te passe le relais, Vanessa, pour que tu nous expliques ce que tu fais exactement et ce qu'est la synergologie, s'il te plaît.
Merci Magali et bonjour.
Bonjour.
Effectivement, la synergologie, on a l'habitude de dire que c'est une discipline qui étudie et observe la communication non verbale. Mais rien que cette définition, c'est un peu réducteur en fait, parce que dans communication non verbale, on a le mot communication. Mm-hmm. Et communication, c'est envoyer des messages qui sont conscients, alors que là, dans l'observation, on est amené à aller bien au-delà de ce qui est volontairement exprimé, on va dire. Et puis dans le non verbal, ça sous-entend tout ce qui n'est pas dit oralement. Mm-hmm. Alors c'est effectivement vrai à travers les déplacements corporels, mais pas que, parce que dans la voix, on entend aussi des choses en fonction de l'intonation, de la prosodie, du rythme, des silences. Ça fait partie de notre champ d'observation, accompagné de tout ce qui est autour de la personne ou des personnes, puisqu'en général, on observe les individus lorsqu'ils sont en interaction.
Tout à fait. Donc effectivement, toute cette voix, c'est le côté paraverbal qui fait partie aussi de ce que tu observes.
Exactement.
Tout à fait. Alors, pour revenir sur le mot synergologie en lui-même, parce que moi, la première fois que tu m'en as parlé, donc pour remettre dans le contexte avec Vanessa, on s'est rencontrés parce que moi, j'avais envie d'élargir un petit peu mon réseau professionnel, pourquoi pas amical, et on s'est rejoint sur une plateforme où on peut rencontrer des personnes qui sont formateurs ou autres, qui ont un profil un petit peu avec des pensées en arborescence, on va dire. Et on s'est donné rendez-vous, on s'est rencontrés. Vanessa m'a montré la coopérative, on va dire, entre guillemets, d'entrepreneurs dans laquelle elle est sur Nantes. Et là, aujourd'hui, je lui montre ma coopérative, qui est le Périscope de Saint-Nazaire. Et très vite, j'ai fait le rapprochement entre moi, ma position de enseignante en prise de parole en public et professionnelle dans le domaine, et puis la synergologie qui est vraiment très précise sur le non-verbal. Donc, j'ai trouvé l'idée d'interviewer Vanessa vraiment très intéressante pour ce podcast. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est vraiment la synergologie ?
Oui, on observe en fait les personnes qui sont en interaction. Donc déjà, pourquoi en interaction ? C'est que si j'observe une personne qui est toute seule, elle va beaucoup moins se déplacer en termes de mouvement et de corporalité. Sauf si elle est au téléphone. Quand on est au téléphone, par exemple, on va mettre notre corps en mouvement, on va marcher, on va mimer des expressions pour accentuer notre langage, alors que la personne qui est au bout du fil n'a absolument pas la capacité de voir en fait ce qu'on lui propose dans la communication. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que le corps se met en mouvement pour aider à la structure mentale, au schéma de pensée qui amène au verbal. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que le geste précède la pensée.
D'accord.
En général, effectivement, il accompagne le langage, mais parfois, il précède la pensée de plusieurs secondes. En général, c'est 3 à 6 secondes. Et quand il y a une dissonance entre ce que l'on pense et ce qu'on le dit, il y a jusqu'à 30 secondes. Donc la moitié d'une minute, c'est énorme. Donc quand on apprend à observer, on apprend à décrypter. Donc on n'est pas dans la tête de l'individu, mais on va voir ces variations d'état interne, la tonicité du corps, l'assouplissement. Et donc ça va nous donner des hypothèses sur ce qui se passe dans l'état interne de la personne, comment elle effectue son schéma interne de pensée qui amène au verbal. Et parfois, il y a une dissonance entre ce qui est dit et puis la tonicité du corps où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence, on va dire, où il y a une dissonance. Okay. C'est là où on rentre en questionnement avec la personne. C'est-à-dire, la notion de questionnement est très importante en synergologie.
D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, notamment sur la dissonance qu'on peut voir entre le corps et ce que la personne va dire. Et ça me fait penser à un TEDx qui est assez connu sur le sujet, où on voit une femme qui, a priori, aura tué son enfant et qui sourit. Et on voit la moitié droite du visage. Alors, moi, j'avais adoré ce TEDx et puis j'avais appris des choses que j'ai même réutilisées et j'en ai parlé, en fait, autour de moi. Et donc, la moitié droite de son visage souriait, la moitié droite de son visage pleurait, pardon. Donc, c'est ce qu'elle montrait. Et la moitié gauche, quand on regardait, souriait. Et donc, alors, c'est pas pour ça qu'ils ont trouvé qu'elle avait tué son enfant, mais ça a été une des pistes, a priori. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se passe comme ça au niveau de la criminologie, Vanessa ?
Alors, il y a beaucoup de légendes urbaines. Dans la communication non-verbale, c'est quelque chose qui soit fait rire, fait peur ou fait fantasmer. Et dans cette notion de fantasme, malheureusement, on entretient des choses qui ne sont pas aussi vérifiables.
D'accord.
On est dans une discipline extrêmement subtile. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a une lecture assez symétrique du corps qui nous permet d'affiner des hypothèses, et cette notion de sourire dissymétrique en fait partie.
D'accord.
Mais il faut savoir que quand une des peurs, donc il y a deux peurs aujourd'hui qui motivent nos stratégies de comportement. Il y en a une que tu connais bien, c'est la prise de parole en public, qui est des peurs majeures, je crois en numéro 2 ou en numéro 3.
Moi, j'avais entendu que c'était numéro 2, voilà. Que les gens avaient vraiment peur en numéro 2.
Et une des premières peurs dans le top 3, c'est pas de mourir, parce qu'on est dans une société qui est assez protectrice.
Oui.
Hein, on arrive à manger, on a un toit pour la plupart d'entre nous, et heureusement. C'est en fait de perdre la face ou de faire perdre la face à l'autre.
D'accord.
Okay. Et ça, on le voit par exemple sur scène, quelqu'un qui oublie son texte, le public est plus mal à l'aise que la personne qui est sur scène.
Oui, c'est vrai ce que tu dis. En fait, ils sont en empathie, tout à fait. Les gens sont en empathie.
C'est une compassion naturelle.
Ouais.
Donc, quand on raconte quelque chose de triste, par exemple un drame, un décès, on a envie de rassurer l'autre sur le processus, en fait, mais c'est ok, ça va, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Et là, il y a un sourire qui peut apparaître. On est dans une dimension, une construction sociale qui peut apaiser l'autre. Donc, attention à cette notion de sourire.
D'accord.
Un sourire avec une dissonance, oui, ça peut être effectivement un sourire qui n'est non ressenti, et donc un principe de manipulation dans la stratégie de dire on a enlevé mes enfants alors que la personne l'a tué, ça peut être ça.
Oui.
Ça peut être une construction sociale et la personne peut avoir une dissonance naturelle dans sa posture physique en fait. Mm-hmm. Une personne qui a eu un AVC par exemple, on peut voir une dissymétrie du visage beaucoup moins souple. Mm. Donc attention au résumé trop rapide, c'est d'où la complexité de cette discipline.
Ouais. Ok. Voilà, écoute, c'était intéressant sur la partie sourire. Alors j'en ai eu une autre, tu vas me dire si c'est une réalité ou pas. Mm. C'est le fameux croisement des bras. Alors souvent on nous dit, voilà, croisement des bras égale fermé. Moi c'est vrai qu'au tout début où je donnais des cours, je relayais un tout petit peu ça, puis je suis revenue dessus. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que ça renvoie en fait quand on croise les bras?
Tu vois, tu as les mains là qui se touchent, qui sont fermées.
Oui.
Pour autant, on n'est pas du tout dans un principe de fermeture ensemble.
Oui.
Je te sens pas stressée non plus.
Non, ça va. Je suis contente.
Mais tu as les mains qui sont fermées.
Oui.
Donc, une partie des légendes urbaines serait de dire que tu es en repli sur toi. En fait, le corps est recouvert de neurotransmetteurs. Et comme on a besoin de se mettre en mouvement pour aider à la structure mentale, on va aller stimuler certaines parties du corps en fonction de son interaction. Et là, en l'occurrence, le fait de plier ses bras, oui, ça peut être un repli si la personne elle se met en retrait, s'il y a une tension au niveau du visage, mais ça peut être aussi une posture de confort et de réflexion.
D'accord.
C'est-à-dire que pour réfléchir, on va avoir tendance à porter les mains sur le visage, à les mettre sur le menton, voire à stimuler le haut du front ou le crâne en fonction de... Et le fait de fermer les bras correspond à une posture de « je t'écoute ».
D'accord.
Je réfléchis, je suis assez en phase avec toi. C'est un repli un peu sur moi, mais plus pour aider, à comprendre tout ce qu'on dit.
Donc, d'accord.
Tu vois, il y a plein de possibilités. Le curseur, on y a un spectre en fait d'analyse dans chaque geste. Il peut être très positif si la personne elle est dans la relation, qu'elle est détendue et qu'elle maintient la relation, comme ça peut être un geste de repli s'il y a un pas en arrière, s'il y a un froncement par exemple au niveau des sourcils ou un axe de tête qui change.
D'accord. Alors, et un sujet justement sur lequel je voudrais rebondir, c'est que j'en parle souvent côté un peu VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, que tu as dû voir du coup en PNL. Je l'utilise assez souvent. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, quelqu'un qui serait dominante kinesthésique, donc aurait besoin d'être dans les ressentis, dans le corps, justement, pourrait plus facilement, peut-être, pour réfléchir, faire croiser les bras? Ou est-ce que dans la synergologie, c'est pas quelque chose qui est pris en compte? Est-ce
non.
que toi, tu...
On ne prend pas du tout en compte.
Pas du tout en compte, le côté VACOG Ok.
On ne prend pas en compte, comme on ne prend pas en compte la sémantique émotionnelle, et on ne prend pas en compte non plus... Alors... Je vais modérer le fait d'être droitier ou gaucher.
D'accord.
En fait, le fait d'être droitier ou gaucher, on a une main dominante qu'on va actionner spontanément. Mais on sait que cette main dominante, elle n'est pas plus présente. Tu vois, le fait que tu sois à ma gauche, je vais avoir tendance à utiliser ma main gauche alors que je ne suis pas gauchère.
Bah oui.
Donc les biais d'environnement, donc ton positionnement par rapport à moi, le fait qu'il y ait une porte juste derrière moi, il y a un élément qui me met en alerte, parce que je ne peux pas voir qui peut rentrer
derrière toi.
Le fait qu'il y ait une fenêtre à droite, ça va être un élément où si je cherche mes mots, je vais avoir tendance à ne plus te regarder et à aller chercher vers la lumière. Donc non, ce ne sont pas des éléments qu'on va prendre en compte. On va vraiment être dans l'observation à la fois de l'environnement, des biais extérieurs,
d'accord.
de ce qui se passe dans l'interaction, les mots, la prosodie et les déplacements corporels. Et c'est vraiment le questionnement, si je vois quelque chose qui m'interpelle, je vais aller en questionnement avec toi pour aller vérifier des hypothèses.
D'accord.
Et c'est vraiment le questionnement qui va amener à la finesse de l'interprétation.
D'accord, ok. Très bien, très bien. Alors, dernière idée reçue ou pas, parce que je me dis c'est intéressant d'en parler. Il y a le fameux aussi, notamment en entretien d'embauche, de « je pose une question qui dérange la personne et tout d'un coup, elle recule, elle se met au fond de sa chaise ou alors tout d'un coup, elle se rapproche de moi et elle me regarde vraiment dans les yeux. » Est-ce que ça aussi, on peut l'analyser ou après, tu vas me dire, c'est peut-être aussi pareil, multi, mais est-ce que ça nous donne une indication ou pas?
J'ai envie de dire, avant de répondre à ta question, j'ai envie de dire... L'entretien d'embauche, c'est l'exemple crucial. En fait, on peut complètement rater son entretien d'embauche et être le parfait candidat pour le poste.
Ah, ça, c'est dommage.
Je passe un message. Allez, vraiment, quand, en général, quand on est professionnel du recrutement, on développe un instinct assez fort et on a des méthodes de questionnement qui permettent quand même de soutenir un candidat qui aurait moins de facilité à la prise de parole. Ouais. Parce qu'on est sur le sujet de la prise de parole.
Tout à fait.
Mais on n'est pas tous professionnels du recrutement. Je pense à des dirigeants qui voudraient... Donc attention, un bon candidat qui aurait de la facilité à l'oral n'est pas forcément le bon candidat pour le poste. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en synergologie, on a des postures de chaise très fortes où on sait qu'effectivement, quand on est engagé, il va se passer des variations comme ça, le corps peut se mettre en retrait. On dit que le corps ne sait pas mentir, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire que le corps nous met en composition de situation de manière très spontanée, parce qu'on a envie de garder la face ou de ne pas faire perdre la face à l'autre. Donc on va composer assez naturellement, et puis ça, en général ça passe. Mais par contre sur du long terme, ou sur de la haute stratégie, c'est-à-dire quand on est vraiment dans le mensonge, là ça va demander de la ressource. Et là le corps, comme il est écologique, eh bien il ne va pas pouvoir tenir dans le temps, il y a toujours un moment donné des items corporels qui vont nous montrer que la personne elle est en surcompensation et que là il y a quelque chose de pas normal. Mais c'est vraiment le questionnement, tu vois, si je te vois te mettre en retrait, est-ce que la personne me ment ou est-ce que c'est ma question qui est dérangeante?
Oui.
Tu vois, si on identifie en tant que recruteur qu'il y a un trou dans le CV, tu vois, j'ai remarqué, vous n'avez rien fait
pendant 4 ans.
Pendant 2 ans. Bah, peut-être que la personne, elle a élevé son enfant qui est handicapé.
Oui, tout à fait.
Peut-être qu'elle a été aidante. Mm. Peut-être qu'elle a eu un cancer du sein. Mm. Tu vois dans quelle mesure le questionnement peut mettre en défaut la personne. Mm. Et donc, attention à la qualité du questionnement. Ne jugeons pas trop vite la mise en stress ou la mise en retrait. Mm. Soyons bienveillants.
Oui.
On peut aussi dire, est-ce que, voilà, il y a ma question...
Est-ce qu'elle vous dérange?
Est-ce qu'on peut en parler?
Oui, ou pas.
Comment vous pourriez m'amener des clés de compréhension pour me rassurer? Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période-là? Tu vois, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période-là? Ça fait appel à la mise en compétence. Si la personne, elle a été aidante, elle peut dire la pugnacité, la résistance, la résilience, être en soutien, ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé de se dévoiler par rapport à... Donc attention, oui, on voit plein de choses. Oui, ça peut être de la mise en retrait. Oui, ça peut être effectivement du CV aménagé. Mais voilà, on a envie de construire une relation durable avec... C'est une relation de partenariat avec son candidat. Donc il faut garder cette humilité-là et cette bienveillance, je pense.
Tout à fait. Ok, très bien. Alors, juste parce que je pense que on se pose des questions à cause de la télé. Tu vois, on voit des films où on voit les personnes qui sont en train d'observer. Justement, tu parlais de mentir des criminels des fois. Est-ce que c'est ton type de formation qui peut observer les criminels quand ils sont dans des salles d'audition en plus des policiers? Est-ce que c'est les synergologues qui font ça ou,
Oui, on peut être amené à être sollicité.
Ah. D'accord.
Pour un interrogatoire, pour former les professionnels, que ce soit des enquêteurs ou des avocats. Parce que,
les avocats aussi, voilà, tout à fait.
Oui. On peut être sollicité par un juge. En France, sincèrement, la discipline, elle ne met pas à l'aise. C'est-à-dire qu'ils sont tous formés aujourd'hui. Tu vois, je parle de policiers, GIGN, gendarmerie. On a des demandes.
D'accord.
Ils sont formés. Mais il n'y a pas cette revendication assumée qu'on pourrait avoir au Canada.
D'accord.
Où c'est OK, c'est une compétence et on l'affirme. On sait que dans certains aéroports, tous les professionnels, qu'ils soient bagagistes, vendeurs de billets, accompagnateurs, ils sont formés à la détection des items corporels pour favoriser la sécurité.
Je savais pas
Miami,
ça. D'accord, OK.
Au Canada, tous les interrogatoires sont filmés. En France, seuls les interrogatoires des mineurs sont filmés. Donc, il y a cette espèce de tabou discrétion parce que c'est une discipline, que la reconnaissance de la discipline associée aux légendes urbaines, il y a quelque chose qui met mal à l'aise.
D'accord.
Mais on est sollicité en tant que formateur de la synergologie le créateur de la discipline qui a, il y a deux centres en France, dont un à Paris, l'US, forme des enquêteurs à longueur de journée sur le sujet.
D'accord.
Voilà, ça reste un peu tabou. Moi, ce n'est pas mon centre de prédilection.
Oui.
Voilà, j'ai été sollicitée pour élaborer une formation pour le GIGN. Ça n'a pas abouti. Je suis assez OK avec ça.
D'accord.
Mon cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise.
D'accord.
Donc déjà, je trouve qu'il y a beaucoup à faire.
Bien sûr.
En transformation individuelle ou en transformation collective.
Oui.
Que ce soit dans le domaine du recrutement, dans la gestion des conflits, dans le management. Dès qu'il y a de la relation humaine, voilà, même en commercial.
Bah oui, tout à fait. Bon bah écoute, c'était une petite parenthèse parce que je trouve que le côté criminologie, c'est le côté un petit peu plus voilà, qu'on voit à la télé, donc ça permettra aux personnes de recentrer un petit peu ce qui peut être utilisé dans ce domaine-là. Alors maintenant, j'aimerais recentrer un petit peu sur nos auditeurs. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retirer de ce côté synergologie quand nos auditeurs vont prendre la parole en réunion, face à du public parce qu'ils doivent faire une conférence? Qu'est-ce qui peut, est-ce que tu peux nous donner 2-3 tips? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Qu'est-ce qui peut leur servir?
Ouais. Alors, souvent, quand on vient voir pour une prise de parole, quelle qu'elle soit, scénique ou améliorer sa prise de parole en entreprise pour présenter un projet, on fait souvent appel à « je manque de confiance en moi », c'est ce qui ressort.
Ah, oui.
Et donc, j'ai envie d'avoir, en gros, une power posture, quoi. Être le killer de la posture.
Wonder Woman.
En fait, vous allez être déçu parce qu'on ne va pas travailler sur votre posture. En fait, il y a un alignement. Comme on observe le corps, on voit bien que le corps, il est toujours à sa juste place. Mais à sa juste place, soit en tension ou en décontraction, c'est-à-dire en alignement, en authenticité, en souplesse. Et donc, quand le message passe pas ou quand on est sur scène et qu'on se sent tendu, là, on est en tension. Donc, il faut trouver le juste alignement entre le propos que l'on porte et le corps.
D'accord.
Donc, si on travaille le corps, eh bien là, on est dans la théâtralisation, c'est dur à dire, du propos.
Mm-hmm.
Mais on n'est pas dans l'incarnation du propos. Donc, moi, je vais proposer en exercice de se filmer. Parce qu'on ne peut pas être dans le déni quand on se voit. D'ailleurs, ce n'est pas très agréable. Ce
n'est pas agréable. J'en ai plus. Tout à fait.
On se voit. Enfin, il y a quelque chose de rédhibitoire, mais c'est normal. C'est que du coup, on voit bien là, ce qui passe et ce qui ne passe pas. On voit bien là où sont nos sourires et là où sont nos
sourires. Je te rejoins, c'est un super exercice parce que là, c'est une prise de conscience.
C'est une prise de conscience.
On ne peut pas passer par d'autres. Des fois, il y a des stades. Là, c'est une prise de conscience rapide.
Voilà. Oui. Et donc, la première chose, plutôt que de travailler sur le corps, ce qui n'est pas impossible à faire, mais on en reparlera après, c'est plutôt de travailler sur le poids des mots par rapport au corps. Et donc, de voir à quel moment on sent que le corps n'est pas très à l'aise. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au mot qui est utilisé? Et parfois, on utilise un mot parce qu'il fait bien, parce qu'il est marketing, il est vendeur.
Oui.
Mais en fait, ce mot-là, il est en rupture par rapport aux valeurs ou en rupture par rapport à la connaissance du sujet aussi. Des fois, on va s'approprier un sujet parce qu'on a une étiquette hiérarchique, on est dirigeant, par exemple, mais dans les faits, c'est pas nous qui faisons. Ça va être notre assistante ou notre collègue. Donc, attention, ça, le corps, il sait très bien nous montrer là où ça ne va pas, en fait. Voilà.
D'accord.
Donc, en petit tips, c'est d'accepter de bien travailler la puissance des mots à l'écrit.
D'accord.
Quand on veut les porter. Et c'est valable également en gestion, enfin quand on présente un projet ou une idée, d'arriver comme ça juste avec son idée sans l'avoir préparée avant.
D'accord.
De puissance.
Okay,
donc c'est vraiment la préparation, la structuration qui va faire qu'on va gagner en fluidité.
D'accord. Donc préparation, puissance des mots, premier tip.
Exactement.
Ok.
Et comme on va voir que ça va passer, naturellement le corps, il va gagner en hauteur. Plus on est dans la satisfaction,
d'accord,
plus le corps s'élève. Tu vois, alors les auditeurs ne le verront pas, mais imaginez une amie à vous qui vient de recevoir une bague de fiançailles. Quand elle va vous la montrer, elle va vous la montrer avec beaucoup de hauteur. Sa main sera plutôt vers le haut, elle ne sera pas vers le bas. Donc dès lors qu'on est en satisfaction, et les autres vont nous renvoyer cette satisfaction, ils nous comprennent, ils valident l'idée. Notre corps va s'ouvrir. On ne peut pas être dans le bonheur et la satisfaction en étant tout serré. Donc plus notre message va être clair, plus on va se détendre, plus on va s'ouvrir. Après, on peut travailler tous les matins l'ouverture volontaire. Ça, c'est Ami Cudi, on parlait de TEDx tout à l'heure,
oui,
qui intervient très bien sur le sujet. On sait que volontairement, on peut incarner des gestes de power posture tous les jours à raison de 10 minutes et on va travailler sur notre neuroplasticité, etc. Mais ça, c'est pas de la synergologie.
Oui. Mais ça va avec, enfin, c'est plein de petites choses parce que des fois on se dit, ben voilà, on va faire une prise de parole comme tu disais. Il y a des gens qui vont dire, oui, ben, alors détends ton corps, mais de ce que tu nous dis, c'est d'abord, entre guillemets, prépare et prépare tes mots et ton corps va se détendre. Donc c'est tout un tas de petites choses mises les unes à côté des autres qui vont aider.
Un petit tips pour avant de prendre la parole en public, on le fait assez spontanément. Tu vois, on peut claquer des mains. On peut se donner de l'énergie, on est assis, allez, on y va, on va se taper sur les cuisses. Ça, en synergologie, on connaît très bien ces gestes-là en fin de réunion ou quand on veut partir, mais on peut le faire volontairement. Tu vois, le fait de taper dans les mains. En fait, comme le corps est écologique et qu'on ressent de la tension avant de prendre la parole parce qu'il y a un public, ça nous met en stress, il faut évacuer ce stress-là. Mmh. Et si on ne l'évacue pas par des gestes de pulsion, de tension, le risque, c'est que ça s'évacue par des petits rires, par exemple.
Oui.
Mmh. Ou par des gestes saccadés, ou par le fait de cacher, en fait, ses mains, parce que les mains sont la prolongation de nos émotions, tu vois. C'est des extensions.
Des extensions, tout à fait.
Voilà. Ce qui nous amène au fait de manipuler des objets. Donc là, je peux donner d'autres tips.
Les deux derniers tips, ouais, comme ça, riche en tips, quatre tips.
La petite télécommande.
D'accord, oui, la petite zapette qui permet de passer les slides.
Déjà, quand on l'a en main, on se rend compte à quel point elle a été designée. Oui. Elle est ergonomique, elle est douce. C'est pas pour rien. Ça, c'est un objet doudou qui va pouvoir nous rassurer.
D'accord.
Parce que quand on est sur scène, on a l'impression, on a envie d'enlever nos bras. Tu vois, on ne sait pas quoi en faire.
Ah oui, ça revient souvent.
Cette fameuse télécommande peut rassurer et peut permettre d'être au contrôle, tu vois, s'il y a des slides, de la dynamique. Donc ça va aider à structurer aussi le schéma mental quand bien même on fait appel à sa mémoire.
Oui.
Tu vois, je fais ça avec mes mains, il y a quelque chose qui cadre en fait le rythme. C'est un petit peu comme le chef d'orchestre qui va utiliser sa baguette.
Sa baguette, tout à fait.
Ça, c'est la télécommande.
Oui.
Le micro, c'est un peu du même ordre, mais du coup, s'il bouge de trop, eh bien, on ne va pas entendre. Donc, on conseille de poser le micro sur le menton.
Tout à fait.
Mais le tips que je donnerais, c'est de tenir le micro de la main gauche. Parce qu'effectivement, le côté droit du corps, on va le contrôler dans le discours qu'on a à tenir. Tu vois,
d'accord.
Cette rigueur, les mots, on les a préparés.
D'accord.
Donc, le rythme, la technique, on va le donner du côté droit. Mais du coup, la main gauche, elle risque de partir un peu dans tous les sens ou de se cacher. En tenant le micro de la main gauche, on vient canaliser une main qui est un petit peu plus fragile.
Qu'on soit droitier ou gaucher ou faut inverser si on est gaucher ?
Qu'on soit droitier ou gaucher,
donc ça c'est important.
Ouais.
Ok, très bien.
Exactement. Le rythme et la technique va plutôt être donné de la main droite. Et pour canaliser les émotions, on va préconiser la tenue du micro de la main gauche.
Bah écoute, Vanessa, merci beaucoup pour ces tips. Donc pour le rappeler aux auditeurs, donc, le premier, préparation. Et le poids des mots, important, qui va jouer après en cascade sur la décontraction du corps, sur tout le reste. Le fait de se mettre en mouvement, en claquant des mains pour évacuer le stress, avant de plutôt diffuser notre stress au travers de rires nerveux ou de gestes un petit peu parasites. Donc ça va aider à dissoudre toute cette partie-là. J'ai d'ailleurs juste un petit exercice dont je pourrais vous parler, qui s'appelle le booster clap, que moi j'utilise, qui consiste à taper des mains, à sauter, à dire yes en souriant. Donc je sais que mes étudiants en sont fans, qui permet aussi d'évacuer tout ce stress avant de commencer, mais bon, il faut le faire dans les toilettes. Le troisième, tu nous parlais de la zapette, qui n'est pas juste une zapette en fait, et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, qui est plutôt un objet doudou, avec le côté lisse un petit peu, qui peut nous servir pas d'ancrage, mais...
Donner de la contenance.
Donner de la contenance, tout simplement, effectivement. Et puis le micro. Le micro et le tips que tu nous donnes, quand on soit droitier ou gaucher, c'est de le tenir de la main gauche et de pouvoir garder sa main droite qui va pouvoir bouger et expliquer et de bien le caler sur la main gauche plutôt que de passer d'une main à une autre. Des fois, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, au moins, on sait quoi en faire. Donc merci beaucoup pour ces tips qui, j'espère, vous serviront, les auditeurs. Et pour finir, Vanessa, je voudrais avoir un petit peu ton actualité. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes ? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur toi ? Si les auditeurs ont envie de t'appeler, est-ce que toi tu peux intervenir ou si c'est des entreprises, qu'est-ce que tu proposes exactement?
Alors oui, mon cœur d'activité, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation. Donc c'est un vrai terrain de jeu parce que ça, on peut partir d'une problématique d'innovation de produits et services, comme d'un conflit au sein d'une équipe ou l'envie d'assouplir l'organisation pour gagner un petit peu en horizontalité, c'est-à-dire en mode participatif. Donc c'est un terrain qui est très très large, mais il n'y a pas de transformation collective s'il n'y a pas de transformation individuelle. Donc j'ai aussi une boîte à outils qui est dédiée aux individus, qui intègre le bilan de la valeur humaine ajoutée. C'est un bilan en fait qui permet de faire un état des talents naturels et exploités ou non exploités en situation.
Ah, super.
Donc ça permet de comprendre pourquoi parfois on ressent du désengagement, voire de la colère ou des difficultés dans la relation à l'autre, parce que ça permet d'identifier ce qui pourrait être un peu plus mis en avant et qui n'est pas exploité aujourd'hui dans le périmètre de mission. Donc ça aide au repositionnement.
D'accord.
Et je suis assez fan du CODEV également, parce que tout ce qui touche à la communication permet aux équipes du mieux travailler ensemble.
Mieux travailler ensemble,
exactement.
Okay. Et donc pour les changements individuels, tu interviens aussi dans l'entreprise et des personnes en individuel, tu les suis pendant, j'imagine, plusieurs séances pour les aider. Ouais. À revenir.
En fait, ça dépend de la problématique de départ.
D'accord.
Parfois, c'est simplement parce qu'il y a un objectif, par exemple, de prise de parole ou de levée de fonds, par exemple. Il y a un objectif de pertinence. Parfois, c'est un objectif de repositionnement à l'intérieur de l'entreprise. On a fait le tour de son périmètre ou on vient de prendre une nouvelle fonction et on se sent un peu en fragilité. Ou voilà, il y a des retours aussi au travail suite à un arrêt maladie longue durée, où les entreprises me sollicitent pour accompagner le collaborateur dans sa nouvelle dynamique. Il y a un avant et un après. Voilà.
Super. Comment est-ce qu'on te contacte ? Où est-ce qu'on te trouve ?
Alors, on peut me contacter par l'intermédiaire de LinkedIn,
d'accord,
Vanessa Musset, et mon site internet, Move Consulting. Mais en général, Vanessa Move, Vanessa à Nantes, je ressors assez facilement. Et puis, des synagogues, il n'y en a pas énormément à Nantes. Je
d'accord.
pense qu'on est 2-3.
Ok, bon bah très bien. Bah je mettrai de toute façon tous les liens sur le texte du podcast. Et merci à toi, Vanessa, pour cette interview qui, je pense, va être très riche pour nos auditeurs.
Merci
à toi.
Pour ta confiance.
Avec plaisir. Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC pour conseil, formation, communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de trois choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va, on y va, on y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti !